Les meeples sont de sortie. C'est la pause à midi. C'est ludique, c'est ludique. Les jeux, c'est magique.
Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Ludique, les amis. C'est Mathé, on est ensemble pendant une petite demi-heure. D'ici quelques instants, je vais vous parler d'un jeu de plis. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de jeu de plis. Et puis on retrouvera Jonathan du magasin Terre de Jeux à Rennes pour Quoi de neuf dans la boutique. C'est Ludique, ça commence tout de suite.
C'est la pause déjeuner, Mathé pour t'inviter à jouer. C'est ludique, encore plus de nouveautés.
Et au menu aujourd'hui, donc, c'est la communauté de l'anneau, le jeu de plis coopératif, un jeu de Brian Bornmüller, un jeu édité par The Office Dog et distribué par Asmodée. Alors, tout comme The Crew, ce jeu coopératif est basé sur des missions. Les missions de la communauté de l'anneau qui représente les 18 chapitres du livre et raconte l'histoire du premier livre de cette saga fantastique épique. Tout le monde connaît cette saga. Alors, au niveau du matériel, on a 144 cartes et 5 pions. Les joueurs commencent chaque mission en lisant une carte chapitre qui décrit brièvement ce qui se passe thématiquement. Ça indique un petit peu les personnages parmi lesquels les joueurs peuvent ou doivent choisir et leur donne aussi la condition de victoire qui consiste généralement à compléter par exemple le plus de plis ou remporter une carte précise. Ensuite, toutes les cartes indiquées sont distribuées aux joueurs. Il y a 5 familles de cartes, les collines, les forêts, les montagnes, les ombres. Ils ont tout ça une valeur de 1 à 8 et les anneaux de valeur de 1 à 5, c'est un petit peu l'atout. Le joueur avec la carte anneau de valeur 1 sera d'ailleurs Frodon. Pour la partie, les autres joueurs doivent choisir un autre héros. Et bien voilà, vous êtes prêts à jouer. Mais alors comment on joue? L'idée n'est pas de vous spoiler les différentes missions dont je vais vous expliquer uniquement le premier chapitre. Et vous allez voir, c'est très simple. Mais sauf indication contraire, sur la carte chapitre, le pli est assez simple à réaliser. Il n'y a qu'une seule carte atout dans le jeu, qui est, comme il se doit, la carte 1 des anneaux, avec laquelle Frodon commence toujours sa main. Cela dit, chaque chapitre devient généralement un petit peu plus difficile et introduit de plus en plus de variantes par rapport au pli classique. Alors Frodon commence à jouer, mais pas avec l'anneau. Il doit jouer une carte d'une des familles. Les autres joueurs doivent suivre dans la couleur demandée. Et si Frodon joue une carte colline, les autres joueurs doivent jouer une carte colline. S'ils ne peuvent pas, ils défaussent une autre carte, comme dans un jeu de pli classique. Le joueur qui remporte le pli commencera le suivant. Un joueur peut jouer une carte anneau à partir du moment où une carte anneau a été défaussée. Un petit peu comme dans Rebelle Princesse que je vous avais présenté l'été dernier. On continue de jouer jusqu'à ne plus avoir de carte en main. Si tous les joueurs ont réussi leur objectif, c'est une victoire et vous pouvez passer à la mission suivante avec de nouvelles choses qui vont arriver. Sinon, il faut recommencer. Alors ce que j'en pense de la communauté de l'anneau, le jeu de plis coopératif, c'est un nouveau jeu de plis plutôt intéressant avec ce côté narratif que l'on ne retrouve pas dans d'autres jeux coopératifs de plis. Et en plus, si vous aimez l'univers Tolkien, ça va vous plaire. Les premiers chapitres sont plutôt simples, après ça se complique un petit peu forcément. Alors je ne sais pas encore comment ça va se passer dans les derniers, mais clairement ça se corse. Il y a pas mal de choses qui arrivent et qui changent la partie avec des défis plutôt sympa. Voilà, donc ça s'appelle la communauté de l'anneau, le jeu de plis coopératif, et c'est sorti il y a quelques semaines chez Asmodée. Allez, d'ici quelques instants, on va retrouver Jonathan du magasin Terre de Jeux à Rennes qui va lui nous parler de ce qu'il y a dans sa boutique. Qu'est-ce qui vient d'arriver dans sa boutique? Et puis ça commence à arriver forcément parce que y a Cannes aussi qui arrive, et en général quand il y a Cannes, il y a tous les jeux qui sortent la semaine de Cannes. Bref, ça va être compliqué pour placer tout ça dans la boutique. Mais Jonathan, il a de la place et il nous explique tout ça dans un instant. Juste après, Charlotte Cardin.
C'est la pause déjeuner. C'est ludique. Quoi de neuf dans la boutique?
Quoi de neuf dans la boutique avec Jonathan tous les mardis. Salut Jonathan.
Salut Mathieu, salut à tous.
Alors après le festival à Rennes en jeu, il y a pas mal de choses qui sont arrivées, puis on approche de Cannes, donc forcément dès qu'on approche de Cannes, les jeux commencent à arriver par centaines.
Ouais, alors c'est plus calme qu'à d'autres périodes de l'année, ça reste le début d'année un peu tranquille, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de chouettes choses déjà qui sont sorties ce début d'année. Carrément, il y a des choses qui ont bien cartonné à Rennes en jeu aussi, donc il y a de quoi faire, on se dit ça.
Eh allons-y, on commence avec quoi? De quoi veux-tu nous parler aujourd'hui, Jonathan?
Allez, je vais faire dans le pas original. Il y a un jeu qu'on a beaucoup aimé, un jeu de Maxime Rambourg, c'est Fort Crown.
Ah oui.
Voilà, qui a été nommé pour recevoir le prix du jeu de l'année, l'As d'Or. Et effectivement, Fort Grand, c'est très très bien fait. Alors Fort Grand, on est dans un univers un peu médiéval, avec mais bon, c'est mignon, on joue des petits animaux, mais qui vont bien se foutre sur la tronche. C'est un jeu que, alors moi je préviens tout de suite, c'est méchant, on n'est pas du tout dans du jeu coopératif.
Ah non, pas du tout.
Pour vraiment pourrir ses petits camarades autour de la table. Donc il y a une vraie originalité dans Far Cry, je vais sortir des gros mots, ce qu'on appelle un deck building. C'est-à-dire c'est un jeu où on va avoir des cartes, en acquérir des nouvelles et améliorer sa pioche. Là, la particularité de Far Cry, c'est qu'il n'y a qu'une seule pioche pour tous les joueurs. On va tous rajouter des cartes dans le même paquet commun. Donc à son tour, on a un petit trésor à nous, que c'est sympa, c'est un petit coffre dans lequel on cache toute sa fortune, donc c'est-à-dire ses rubis qui sont les points de victoire, faut en avoir le plus possible à la fin de la partie, et ces petits sous d'or qui permettent d'acquérir de nouvelles cartes. Donc à chaque tour, on va tous avoir l'opportunité d'acheter une carte au marché. Donc voilà, on choisit en fonction des effets qui nous intéressent, les cartes sont plus ou moins chères, et une fois qu'on a acheté une carte, on va la mettre dans un petit protège-carte à notre couleur, pour bien identifier que c'est notre carte à nous, et on va la rajouter dans le paquet commun au centre de la table. Une fois qu'on a tous acheté des cartes, on va mélanger ce paquet, et tout simplement, on va révéler les cartes une par une, et quand c'est une carte à moi, eh ben je vais déclencher l'effet, je vais choisir ce que je vais en faire. Donc je vais pouvoir gagner des sous, là c'est le côté gentil, hein, je prends des sous pour essayer d'acquérir de nouvelles cartes, et puis des choses beaucoup plus vilaines. Donc il y a un petit tableau, un petit plateau sur lequel on va déplacer les tableaux à notre effigie ou reculer ceux des autres joueurs pour qu'ils prennent des malus. Et on va pouvoir se faire aussi la guerre des ratons laveurs, donc envoyer des ratons laveurs chez les autres joueurs. Les ratons laveurs, c'est vraiment des crapules, ils vont vous voler vos trésors à chaque manche. Donc il y a quelque chose de vraiment très très vilain là-dedans.
Je crois qu'il plaît à tout le monde ce Fort Crown, hein, j'ai l'impression, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de jeux comme ça, un petit peu méchant. On a été toujours coopératif, là il y a beaucoup de jeux coopératifs, mais des jeux un petit peu méchants comme ça, il n'y en avait pas, et je pense que c'est ce qui plaît aussi, non?
Ouais, bah effectivement, alors je m'en rends peut-être un peu moins compte, parce que c'est vrai qu'en boutique, c'est quelque chose qui est énormément demandé. Nous, on vend beaucoup de jeux dans ce style-là.
Ouais.
Ouais, les gens veulent se taper dessus au travers d'un jeu, peut-être plus que dans la vraie vie. Ils ont peut-être des trucs comme ça qu'ils essayent d'évacuer. Mais Fort Crown, ouais, ça plaît énormément. Alors, moi, j'ai quand même fait pleurer mon enfant, hein, sur une partie de Fort Crown.
Aïe, aïe, aïe.
Donc ça plaît, mais voilà. Plus jeune, faut s'accrocher, quoi.
Ah bah moi, il a crié, il a tapé sur la table et il s'est barré. Donc,
Ah bah voilà. Le jeu est vraiment méchant. On a eu des histoires de vendetta, on le paiera ce qu'on a fait durant cette partie. C'était très drôle. Voilà, mais bon, si vous avez rien contre les jeux méchants, le jeu est vraiment exceptionnel. C'est vraiment essayé.
Ensuite, Jonathan.
Et après, bah, gros coup de cœur de l'équipe, un jeu de Marc-Antoine Doyon et Damien Falkuska.
Ouais.
C'est Antise, édité chez Grug Games. Alors, Antise, il était pas mal attendu par la plupart de mes collègues. Alors, Antise, ça vous propose, c'est une expérience assez originale de par exemple chez vous, de transformer votre logement en maison hantée.
Mmh.
Et le truc, bah, c'est que ça marche super bien.
Ouais.
C'est vraiment réussi, que ce soit au travers de la règle, au travers de l'édition, tout marche très très bien. Donc vous allez choisir un lieu dans lequel jouer, il faut un minimum d'espace, c'est mieux si vous avez plusieurs salles. Vous allez vous mettre dans le noir total. Vous allez régler vos téléphones portables sur la luminosité la plus faible possible pour y voir quelque chose, mais un peu que dalle. Et là, une sorte de maître des cérémonies à chaque manche va désigner la moitié des joueurs qui seront possédés et l'autre moitié des joueurs qui devra essayer de les secourir. Donc on est encore une fois sur un jeu coopératif.
Ouais.
Là, c'est pas trop le propos, c'est surtout un bon jeu d'ambiance.
C'est ça.
Et là, ça va mettre une ambiance de dingue. Les possédés vont partir se planquer dans les différents coins de la baraque et chaque possédé reçoit une carte qui lui dit c'est quoi ce qu'il doit faire. Donc ça te rend un petit peu vraiment acteur.
Ouais.
Une sorte de scène qu'on va faire tous ensemble, on va créer notre histoire d'horreur, et c'est assez flippant. Donc les possédés vont faire devoir faire des choses assez loufoques, hein, chanter des petites comptines, se taper la tête contre un mur, hurler quand on leur parle, et les autres vont essayer de les sauver en essayant de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver ces gens possédés.
Sans être possédé, à ton tour.
Voilà, chaque joueur qui est possédé a sur sa carte indiqué la manière dont il peut être sauvé, mais il ne peut pas nous en parler. Et si les gens qui viennent l'aider font une bêtise, ils vont être contaminés, possédés eux aussi. Donc c'est assez flippant d'aller voir ces gens déjà un peu dans le noir. Tu sais pas trop où ils sont, ils font des trucs bizarres, tu sais pas s'il faut leur parler, si t'as le droit de les regarder. Des fois, en plus, les gens qui ne sont pas possédés ont aussi des choses loufoques à faire qui sont un peu flippantes. Donc c'est vraiment excellent, une réussite totale.
Ouais.
Nous, on a eu la chance là, de pouvoir jouer à 7 dans la réserve de terre de jeu qui est assez tentaculaire. C'était excellent.
Ah, c'est excellent, j'ai déjà fait deux parties, donc on s'est vraiment, vraiment bien marré. Et vraiment, tu te prends au jeu, hein, tout simplement.
Oui, carrément. Bah, je pense qu'il faut vraiment que ce soit des joueurs qui soient volontaires pour l'expérience.
Ah bah oui.
Il faut jouer le jeu. Là, c'est vraiment. Moi, j'ai souvent tendance à dire que les joueurs sont acteurs du jeu, mais là, vraiment, quoi. Faut que tu y ailles à fond, sinon,
ça
ne prendra pas. Et si tu te laisses un petit peu lâcher, tu vas vivre une expérience qui est vraiment chouette.
Ouais.
Et pour moi, ouais, pour le moment, c'est le jeu le plus marquant là, de ce début d'année.
Ah bah oui, c'est un peu l'ovni de ce début d'année. Hein. Ça c'est sûr. D'ailleurs à Cannes, il y aura on va pouvoir tester pour ceux qui ne l'ont pas testé encore. Il y aura plusieurs pièces pour Antise.
Ah trop bien. Bah, oui, si les gens vont à Cannes, faut essayer ça.
Ah bah obligé parce que c'est vrai qu'il faut au moins un minimum 6 joueurs. Hein.
Il faut un minimum 6 joueurs, un maximum de 12.
Ouais.
Donc ça reste raisonnable. Après, bah, c'est plus, il faut le lieu adapté, quoi.
Et puis ce qui est bien aussi, c'est que le maître de cérémonie participe aussi de temps en temps. Ça dépend des cartes tirées, mais il va pouvoir participer aussi avec les possédés, avec les... Ah non, c'est vraiment top.
Ouais, le maître de cérémonie n'est pas laissé de côté,
non,
effectivement.
Ouais.
Moi, j'ai pas incarné ce rôle-là, mais effectivement, il avait l'air d'avoir des choses assez intrigantes à effectuer durant la partie. Mm.
Donc, Antise, tu voulais nous parler d'un autre jeu, Jonathan ?
Bah oui, bah carrément, je voulais vous parler d'un jeu coopératif pour changer, un jeu de Gordon Kaleja. Alors, un jeu qui n'est pas forcément original, mais c'est pour le moment mon coup de cœur personnel de cette année, c'est Fateforge, les chroniques de Cannes, de Cannes, oui. Une aventure coop narrative. Donc là, bah, je vais peut-être pas vous en parler énormément, parce que là, on est sur du jeu assez conséquent, de la grosse boîte.
Alors, d'accord.
Pas forcément pleine de figurines, mais pleine de cartons et de dés.
Ok.
C'est pour les amateurs de jeux d'exploration de donjons, d'expériences très narratives. Fateforge, ça n'a rien d'original, mais c'est sûrement l'un des jeux les mieux faits auxquels j'ai joué dans le genre, pour les gens qui ont pu jouer à des choses comme Descent, Voyage en Terre du Milieu.
D'accord.
Fateforge, c'est tout aussi bien, voire j'ai trouvé ça peut-être encore mieux. Il va y avoir une histoire, donc on est dans un univers classique médiéval, fantastique, avec une narration qui est extrêmement bien travaillée. L'histoire est très plaisante à suivre pour du jeu de société. On a un système de combat qui est super efficace, qui en fait vraiment un jeu de dés, c'est-à-dire à chaque tour, vous allez lancer vos dés, déjà vous choisissez ceux que vous lancez, et grâce à vos dés, vous faites des actions. Alors, c'est pas comme d'hab où normalement on choisit ce qu'on fait, on lance les dés pour faire des tests. Là, c'est vraiment un jeu de dés où comment je me dépatouille avec mes dés pour faire différentes actions. Les dés servent à activer ses compétences. Par exemple, on dit, bah là, si tu dépenses un dé de déplacement, tu fais ce pouvoir-là qui, des fois, te permet de transformer le dé en une autre face pour activer une autre compétence, avoir un sentiment de réaction en chaîne. On va avoir aussi des phases d'exploration à travers la ville, là, qui évoqueront un petit peu micro-macro. On
nous
raconte une histoire, on observe le plan, on regarde les détails, donc c'est assez immersif. Et l'autre truc assez chouette du jeu, c'est qu'il est assez simple à prendre en main pour le genre. Moi, je le conseille énormément pour les gens qui veulent découvrir les jeux d'exploration de donjons. On est sur des règles qui partent pas dans tous les sens, qui vont à l'essentiel, et des sessions de jeu très courtes. On va pouvoir s'arrêter, sauvegarder environ toutes les 30-45 minutes. Donc ça rend le genre beaucoup plus accessible. Moi, ça me plaît, parce que du coup, je peux le conseiller à plein de gens, pas forcément que à des gens qui ont 4 heures pour faire des jeux de société devant eux. Mais ça, c'est assez cool. Je vous en dis pas plus, mais voilà, si vous êtes amateur de genre de jeu un peu de bagarre et d'aventure, ou vous voulez découvrir le genre, je vous invite à vous intéresser à Fateforge.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Jonathan. Tiens, avant de se quitter, tu vas faire comme tous les autres, tu vas me donner ton petit pronostic pour l'As d'Or.
Ah, mon pronostic pour l'As d'Or, mais il faudrait pour ça que j'ai mémorisé.
Alors,
les nommés à l'As d'Or.
Je vais te les redonner, Jonathan, t'inquiète pas. Du coup, catégorie, bah, on va commencer par la catégorie expert. La catégorie expert, on a Sankaré.
Oui, mais là, il n'y a pas photo.
Alors,
là, c'est des breaks qui remportent le prix. Il n'y a pas le choix.
J'avais même pas fini de tirer. Des breaks qui étaient aussi.
De retenir les autres de la sélection, ils sont sûrement très bien. Mais Mais c'est Debrecht qui remportera l'as d'or du jeu expert.
Debrecht qui a été notre cellulite d'or catégorie expert en plus. Donc ça serait pas mal, effectivement. Catégorie initiée. Alors, initiée, on a pas Bombbuster, non. On n'a pas The Gang non plus.
Ouais. Qu'est-ce qu'il reste ?
On a Chronologique, on a Behind et Harmonize.
Bah, c'est forcément Harmonize.
Pour toi, c'est forcément Harmonize ?
Non, je sais pas, mais après, je suis peut-être biaisé par mon travail en boutique, mais je serais très surpris que Harmonize ne reçoive pas
de prix.
Un Asdor.
Ouais.
Ouais.
D'accord. Et alors, justement, par rapport catégorie enfant, je crois que t'as pas testé les jeux, hein, c'est ça ?
Ah, si, bah moi, c'est un énorme coup de cœur en jeu enfant. J'en ai pas tous les ans.
D'accord.
Pour Opération Noisette.
Ah, d'accord, Opération Noisette.
C'est rare et difficile de faire des très bons jeux pour 3 ans.
Ouais.
Et là, vraiment, j'ai trouvé ça assez exceptionnel. Ça sort du lot, voire je pense que c'est l'un des meilleurs jeux de 3 ans auxquels j'ai joué de ma vie.
D'accord, et c'est vrai que rarement...
Je suis pas sûr qu'il aura le prix, mais j'aimerais beaucoup.
Ouais, parce que rarement les jeux 3 ans sont récompensés. On l'a vu les dernières années, notamment avec Flashback ou des choses comme ça.
Oui, mais carrément. Mais il y a des très chouettes nominations, je trouve, pour les tout petits.
Et
Asdor, ils n'ont pas forcément le prix, mais celui-ci mériterait très bien, je trouve.
Et alors, on va finir avec le jeu de l'année. Donc, il y en a 3. Forochrone, que tu as parlé tout à l'heure, qui est un petit peu la surprise, hein, puisqu'il vient tout juste de sortir, donc c'est un petit peu la surprise. On a Captain Flip, qui lui est sorti en tout début d'année, donc 2024. Et puis, Odin aussi, qui était sorti en début d'année, le petit jeu de cartes de Defos. Alors,
pronostic. Ouais, alors c'est vrai qu'en boutique, ça ne me surprend pas de voir ces 3 jeux nommés pour l'Asdor.
Ouais.
Odin, ça a cartonné. Forochrone, c'est vrai que quand on essaye, on se dit c'est un jeu qui va rencontrer son public. Après, Captain Flip, c'est vraiment exceptionnel. Moi, je mise sur Captain Flip.
Ouais, je pense aussi à Captain Flip, à mon avis. Mais on verra bien. On verra bien, parce qu'on dit
c'est
toujours que
surprises.
L'Asdor, c'est toujours celui qui sort à la fin. Bah, là, Captain Flip est sorti vraiment au tout début d'année. Hein, donc, il a cartonné, Captain Flip.
Ouais, puis c'est vraiment. Pour moi, c'est quasiment une évidence comme Harmonize, quoi. Si tu veux faire découvrir des jeux de société au grand public, c'est vraiment exceptionnel, Captain Flip. Ça coche toutes les cases.
Bon, et t'as un petit regret de jeux qui n'ont pas été nommés, justement, ou pas ?
Oh, Debrecht est nommé, donc j'ai aucun regret.
D'accord.
Après, c'est vrai que j'étais surpris de voir ni Bombbuster, ni The Gang.
Ouais.
Il y avait quelques autres choses assez chouettes, mais moi je regrette pas forcément du Château Combo, moi je trouve très bien, qui a plu énormément.
Ouais.
Après, la sélection est vraiment top.
Ouais.
Moi, elle me parle.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Jonathan, et on se retrouve mardi prochain.
Ouais, merci Mathieu, à mardi prochain.
Salut.
Salut à tous.